On est en Shabbat Weekend, on va voir un petit peu quelque chose sur Hanouka. Il y a un midrash sur un des psukim qu'on connaît tous de Shir HaShirim qui dit Adudaim natenu reach vel petachenu kol megadim. Littéralement, Adudaim, donc les Doudaim, c'est le fameux mandragore dont la Torah nous parle que Rouven avait cueilli pour les offrir à sa mère Léa, et qui en fin de compte ont été donnés à Rachel en échange de passer la nuit avec Yaakov. Nous dit le Shir HaShirim, ces doudaïm ont donné une odeur, une bonne odeur. Ve'al petachenu kol megadim, et sur tous nos entrées, toutes nos portes, kol megadim, il y a toutes sortes de délices. Et le Midrash identifie ce délice aux bougies de Hanouka, puisque, comme on sait, que la mitzvah la mieux faite, c'est la Hanouka qui est posée devant la porte de la maison. Ici, on ne le fait pas, mais en Chutz La'aretz, parce qu'on a besoin de Pirsoumanes par rapport aux Juifs, donc on ne peut pas se permettre de mettre devant la porte, mais à la base, c'est Al-Petach Beto. Donc, nous dit en tout cas donc ce midrash que ce pasouk fait référence à Hanouka. Alors, il faudrait comprendre quelle est l'intention du midrash. Il faudrait comprendre la totalité. Adudaim natnu reach vel petachenu kol megadim. Comment ces deux parties de ce verset peuvent éventuellement se lier. Alors, il y a un midrash dans lequel on nous dit que, suite à cet épisode dans lequel on nous parle des doudaim, des fameux mandragores, donc Léa a donné à Rachel en échange de l'intimité avec Yaakov, cette intimité a donné naissance, nous savons, à Issachar d'abord et Zevulun ensuite. Et Chachamim dans le Midrash nous disent que Léa a mérité d'avoir la tribu de Issachar, qui veut dire d'ailleurs Yesh Sachar, tout simplement par le fait qu'elle a manifesté énormément d'efforts pour mettre au monde un maximum de tribus d'Israël. Puisque à elle seule, puisqu'on sait que Bilha en a donné deux, Zilpa en a donné deux, et Rachel, deux enfants aussi, mais qui sont devenus au bout du compte trois Shvatim, puisqu'il y a Ephraïm, Menaché et Binyamin. Et donc en fin de compte, Léa avait manifester ce désir ardent que de mettre au monde la majorité des Shvatim, les Shem Shamaim, tout simplement, pour avoir une grande part dans l'établissement du Ham Israël en général. Donc, quelle est la particularité de Issachar, justement? C'est la Gemara dans Nedarim qui dit qu'il y a un pasouk dans Dvarim dans lequel Moshe Rabbeinu un petit peu reprend l'histoire, et il reprend l'épisode où il a dû nommer des responsables par rapport à chaque tribu. Et au début, Moshe Rabbeinu a fait un appel. Il a fait un appel d'offres. Il avait dit « Avu lachem anashim chachamim unvonim viedouim leshiftechem v'asimem berachechem » Moshe Rabbeinu avait demandé à ce qu'on lui amène des hommes chachamim, sages, ou nevonim, qui se traduit généralement par brillants, viedouim leshiftechem, est connu, agréé de vos tribus, et je les placerai à la tête de vos tribus. Ça, c'est la demande que Moshe Rabbeinu avait fait. Et en fin de compte, trois versets plus tard, il est marqué là-bas, effectivement, « Va'ekach et raché shiftechem » et j'ai pris donc les responsables de vos tribus, et Moshe Rabbeinu dit « Anashim chachamim » c'était des gens chachamim. Et là, la Gemara dans Nedarim s'interroge sur le début et la fin, c'est bizarre. L'appel d'offres était « Anashim chachamim ou nevonim » Et en fin de compte, il a mis des anashim chachamim, et le mot nevonim disparaît. Et la Gemara nous explique, parce que Moshe Rabbeinu, tout simplement, n'a pas trouvé de gens aptes à porter ce titre de navon, qui veut dire brillant. Or, nous savons d'autre part, alors peut-être qu'il n'y avait pas, dans tous les tribus du clan Israël, suffisamment de nevonim pour les placer à la tête de chaque tribu. Et nous savons que la notion de Bina, la notion de Navon, a été donnée dans les Psukim, dans Divrei Hayamim, plus précisément, à la tribu d'Issachar. Il y a un pasouk très connu qui dit « Bnei Issachar yod'e Bina le'itim ». D'ailleurs, parce que Issachar et Zevulun, c'était partagé effectivement le fait où l'un étudiait et l'autre travaillait. Et donc Issachar, on sont connus pour avoir donné les gens les plus savants au niveau du calendrier. Yod'e bina le'itim. Ils connaissaient brillamment les moments. C'est-à-dire c'est eux qui avaient cette chokhma de mettre en place le calendrier hébraïque. Et donc ça veut dire que le terme Navon, si toutes les tribus n'en contiennent pas, en tout cas Issachar lui a mérité ce titre-là, d'être Navon. Et en quoi nous engage ? C'est quoi la Bina ? C'est quoi cette Bina ? C'est quoi ce Navon ? Alors il y a le Sifri, le Keren Ora. Le Keren Ora explique en se reposant sur un Rashi, au nom du Sifri, quelle différence y a-t-il entre les Chachamim et les Nevonim ? C'est quoi la différence concrète entre les deux ? Et le Sifri répond de la façon suivante. Il dit, un Chacham, il ressemble, Domé le Shulchani Ashir. Comment ? Il ressemble à un banquier, important, reconnu, riche. Et ce banquier-là, lorsqu'on lui amène des pièces, lorsqu'on lui amène de l'argent, alors, il compte, il fait son travail, il place. Et lorsque on lui amène, le chacham, lorsqu'on ne lui amène pas d'argent, bah, il attend. Yoshev vetore. Il attend patiemment à ce que les clients viennent. Navon, par contre, le Navon, Domé le Shulchani Tagav, il ressemble plutôt à un banquier, mais dans la finance. Le banquier dans la finance, qu'est-ce qu'il fait ? Que chez Mevin, au Maot Lirotroé, lorsqu'on lui amène pour jouer son rôle de comptable, il joue son rôle de comptable. Et lorsqu'on ne lui amène pas d'argent, il va lui-même chercher de son argent et il va investir, et il va chercher des idées pour faire en sorte que cet argent puisse amener des intérêts. Ça, c'est la différence entre le Chacham et le Navon. Le Chacham, en deux mots, ce qui ressort de ce sifri, voilà, c'est celui qui va amasser des connaissances. Tant qu'il comprend, il dit, bon, bah, il retient, il prend l'information telle que. Le Navon, c'est une fois qu'il a reçu ces informations, il va aller chercher, bon, qu'est-ce que je peux en faire ? Dans quel cadre je pourrais les attribuer ? Comment les faire exister dans un autre cadre que de celui dans lequel je les ai appris ? C'est ça la notion de Navon. Donc ça voudrait dire, d'après ça, le Navon, la qualité du Navon, c'est celui qui va rechercher, qui est dans une recherche ardente, constante. D'aller toujours plus loin, d'en faire quelque chose. C'est quelqu'un qui a plus de réchec, plus de désir, plus de volonté. Et donc c'est pour ça qu'on comprend Mida Keneged Mida. On disait, pourquoi est-ce que Léa a mérité d'avoir la tribu de Issachar qui a le titre de Navon ? Justement parce que Léa a émis cette volonté, ce réchec, ce désir, de mettre au monde la majorité des Shvatim, les Shem Shamaim. Donc Mida Keneged Mida, puisque elle a entre guillemets de l'ambition par rapport à l'établissement de ce qui va constituer le Ham Israël en mettant au monde un maximum de Shvatim. Donc il était normal qu'elle mette au monde une de ses Shvatim, une de ses tribus. Il serait normal d'être qualifié par cette Mida extraordinaire qu'avait cette mère, Léa, à savoir l'ambition d'aller toujours beaucoup plus loin. Et donc, pour reprendre après l'explication de Rashi aussi dans Dvarim, Rashi là-bas explique Nevonim. C'est quoi Nevonim ? C'est Mevin davar mitor davar. C'est ça ce que ça veut dire, Mevin davar mitor davar. C'est-à-dire, j'ai appris quelque chose, mais je ne veux pas me suffire juste d'avoir compris. Je vais aller chercher en quoi ça m'engage, qu'est-ce que cela implique, comment c'est construit, etc. pour aller encore plus loin et construire avec des choses. D'ailleurs, ça rejoint très bien, même au niveau grammaire, le poil de binyan. Un binyan, c'est quelqu'un qui va aller construire à partir de quelque chose. Donc c'est ça, un enseignement pour lui, c'est toujours, c'est pas juste un élément qu'il a reçu, mais ça va être toujours un moyen de pouvoir aller plus loin, construire toujours plus haut. Alors d'après ça, le Rav Shor, ici c'est un grand ami Chacham aux États-Unis, il dit, d'après ça on peut répondre d'abord à une question extraordinaire. Et vous savez que dans la Gemara de Shabbat, là-bas est relaté un petit peu Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka ? Sur quel miracle ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Et quand on regarde la chaîne de la Gemara, on aurait tendance à avoir une remarque. Là-bas, c'est marqué que lorsque les Yvanim sont rentrés dans le Echal, Vetimu Kolashmanim, ils ont impurifié toutes les huiles. Alors c'est marqué que les Hashmanaim sont levés, ils ont fait la guerre, Venatsru, mais ils ont gagné. Et quand ils sont revenus dans le Beth Amikdash pour, on va dire, refaire marcher la machine, ils ont cherché l'huile. Et comment c'est marqué ? Batku velo matzu el aparechad. Batku, ils ont cherché et ils n'ont trouvé, ils n'ont pas trouvé qu'une seule fiole.
C'est marqué où d'ailleurs ?
Un Shabbat, d'Afraf Aleph. Alors, la question est, mais pourquoi c'est pas marqué Batku ou matzu parechad ? Batku velo matzu el aparechad. Pourquoi c'est marqué sous la forme négative ? On dit, ils ont trouvé de façon positive. Et là, le pshat, ça veut dire quoi ? Lo matzu el aparechad. Mashmaki, ils ont cherché et ils n'ont rien trouvé. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien trouvé. Alors, ils auraient pu dire d'abord, ils auraient pu dire, bon, bah, c'est pas grave, on n'a pas, on est honnête. Déjà, première solution. Alpi alacha. Ensuite, même s'ils avaient trouvé des huiles qui sont impures, comme vous le savez tous, Touma, Outra, Betzibou. Lorsque la majorité du clan d'Israël était tamée, puisqu'ils avaient mené la guerre contre les Yévanim, donc ils avaient, d'après la halakha, tout à fait le droit d'allumer avec des huiles impures. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ça veut dire que les Hashmonaïm ont manifesté cette ambition qui dépasse les normes, tout simplement. Ils ont voulu, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et d'ailleurs, c'est peut-être le moment de vous ramener une des façons que le Imre Emet, donc c'était un des premiers Rebbeim de la Chassidut de Gour. À Shabbat Hanouka, il avait toujours l'habitude de ramener, il disait comme ça, lui disait, Ma'ase she'aya kachaya. L'histoire, comment elle s'est passée ? Comme ça, elle s'est passée. Il ramène qu'avant même la guerre des Yévanim, avant même qu'on soit persécuté par les Yévanim, il s'était passé un incident au Beth Amikdash. C'était quoi l'incident ? Enfin, une anomalie. Il disait qu'on fabriquait effectivement l'huile et on remplissait, il y avait des fioles donc qui contenaient 3 lougim et demi de quoi allumer la menorah pour 24 heures. D'accord ? Puisque cette branche, chaque branche, elle contient un chatsi log, un demi-log. Donc, il y avait des fioles, voilà, c'était la quantité pour allumer de façon journalière la menorah. Et à un moment donné, donc, le Kohen, qui était administré à cette tâche, de prendre l'huile fabriquée et de remplir donc, les fioles, prêtes à l'utilisation pour un jour, qui contiennent 3 logs et demi, à un moment donné, il remplit. Il s'apprête à fermer. Et il regarde la fiole, et il n'y a rien dedans. Bon, alors il reprend de l'huile, et il re-remplit. Et il n'y a rien dedans. Et comme ça, il aurait fait 7 fois. Et à la 8e fois qu'il a rempli, ah, là, elle est remplie. Bon, alors c'était tout à fait anormal. Ils sont partis voir le Kohen Gadol. Il a dit, mais c'est bizarre, vous avez cette fiole. Je l'ai remplie, il n'y avait rien, je l'ai remplie, comme ça. Et au bout de la 8e fois, ça s'est rempli. Alors que le Kohen Gadol, il a dit, mais écoute, alors donne, moi je vais mettre mon hercher dessus. Puisque effectivement, c'était une fiole spéciale. Et il dit, mais puisqu'elle est spéciale, alors on ne va pas la ranger avec toutes les fioles. Celle-là, on va la mettre sous la terre. Et c'est la fameuse fiole. Et ils ont compris, c'est extraordinaire, comment c'est des années avant. C'est avant même la persécution. Et ils disaient qu'effectivement, lorsque le miracle est arrivé, donc Batku Velomatsu, ils se sont rappelés, c'est un bas de cou, où ils ont cherché dans l'économa là-bas, où on plaçait l'huile pour la menorah. Et là-bas, ils ont vu que toutes les huiles étaient impures. Et jusqu'à qu'ils ont trouvé où, ils se sont rappelés, ah, mais te rappelles pas, on nous avait appris qu'on avait caché une fiole sous la terre. Il va falloir qu'on creuse pour retrouver celle-là. Et c'est avec celle-là qu'ils ont allumé, et c'est avec celle-là que le Nes de Hanouka, il est arrivé. C'est comme ça que le Imre Emet, il présentait le Nes de Hanouka. Pourquoi il présentait de cette façon-là ? Il dit parce que grâce à cette présentation, on évite pas mal de questions. Notamment, il y a une des questions qui est posée par les Rishonim, c'est que c'est marqué explicitement dans la Parashat Tetzaveh, dans la Parashat Balotra, « Veikroecha Shemen Zayit Zar Katit Lamor »« Shemen Zayit » »« Shemen Zayit » Ce n'est pas un Shemen miraculeux. On a besoin de Shemen Zayit. Alors là, c'était Shemen Zayit. C'était à la fabrique de l'huile d'olive. Donc Béhemet, il avait rempli 8 fois le truc. Donc Mitzad, Shemen, Nes, il n'y a pas de question. Deuxièmement, il dit, Mapitom, cette fiole-là, elle était avec le tampon du Kohen Gadol. Et toutes les fioles, non. Toutes les fioles, elles étaient avec un tampon normal. Et pourquoi c'est avec le tampon du Kohen Gadol ? À cause de l'histoire, de l'incident qui est arrivé, de l'anomalie. Il dit, troisièmement, c'est marqué, Batku velomatsu et la pachechad, vena assez beau, nes. Venaasebo, dans quoi? Vlomatsu la pachechad. On fait référence, quand on raconte l'histoire, quand la Gemara raconte l'histoire de Hanouka, elle parle du par. Elle ne parle pas du le par qui contient le shemen. Elle ne parle pas du shemen directement. Pourquoi? Parce que justement, tout le miracle, il était avec la fiole. C'était une fiole où on a vu que le miracle, c'est marzik. Un mi-out est un méroubé. D'accord? Qu'un petit espace a contenu énormément de matière. Donc on comprend que beau, c'est le par. Et à part ça aussi, on évite la couchia du Beth Yosef, qui pose la question, arrête le miracle, il a duré 7 jours, parce qu'il y avait suffisamment pour un jour. Oui, mais il fallait faire aussi un jour de Hanouka par rapport au Nes, qu'à l'époque, quand il a rempli cette fois, ça c'était pas rempli jusqu'à la 8e fois. Donc comme ça, il répond à la couchia du Beth Yosef aussi. Et d'après ça, il peut rajouter, et c'est pour ça que Shabbat Hanouka Davka, on lit la parashat Miketz, dans lequel Paro rêve de 7 vaches maigres qui sont face à 7 vaches grasses, et que les maigres avalent les grasses, et ce qui l'a effrayé, c'est que les 7 vaches maigres, bon, qui étaient affamées, alors qu'elles mangent peut-être, d'accord, mais elles n'ont pas pris un gramme, elles n'ont pas changé d'aspect. C'est le miracle de Marzik Amouat et Tameruba. Donc il dit, c'est pour ça que le Shabbat de Hanouka, on lit cette paracha dans laquelle il y a le rêve de Paro qui fait exactement correspondre au miracle, au début du miracle, comment le Nes de Hanouka s'est passé. Et Bémet, il y avait Sheva Parot, c'était passé 7 fois. Donc il y avait Mamash, en tout cas c'est un vrai remède. Alors pour revenir à ce qu'on disait, donc c'est pour ça que la Gemara disait « Batku velo matsu bemet » ils ont cherché là où on doit chercher normalement, mais ils sont partis plus loin que ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Hashmonaïm ont fait preuve de cette mida de Navon. Mevin, Davar, Mitor, Davar, ils ne sont pas suffis de faire les choses normales, légalement, mais ils sont partis beaucoup plus loin. Ils ont manifesté un désir ardent, une véritable ambition de trouver. Et donc... ça veut dire que, en fait, les Hashmonaïm sont arrivés à la madriga de Issachar, d'accord, qui est appelé Navon. Donc, on comprend pourquoi. Il y en a qui ont l'habitude de chanter. Il y a des chansons qu'on connaît tous, plus ou moins, sur Hanouka. Une des chansons qu'on chante là-bas, c'est Bene Bina, Yeme Shmona, Kavu Shiro Renanim. Bene Bina. Bene Bina, c'est qui? À la base, c'est Issachar. Bene Bina, c'est ceux qui ont mérité la tribu de Navon. Mais cette fois-là, cette bina, elle ne s'est pas manifestée chez Issachar, elle s'est manifestée chez les Kohanim, plus précisément chez les Hashmonaïm. Donc, Bene Bina, Yemeshmona, Kavushiru Renanim. On comprend pourquoi on parle de Bene Bina. Donc ça, c'est... À part ça, oui. Et on trouve d'ailleurs quelque chose dans Hanouka, parce que généralement, on nous dit, voilà, il y a des mitzvot de Roïta, il y a des mitzvot de Rabbanan. Et voilà comment faire une mitzvah. Donc si tu ne rentres pas dans ce cadre, tu ne l'as pas fait. C'est rare qu'on nous ramène de prime abord, voilà, je vais te présenter 3 niveaux de faire la mitzvah. La mitzvah normale, la mitzvah méhadrine et la mitzvah la méhadrine mina méhadrine. Donc on utilise ce terme méhadrine. Rachid explique, c'est quoi le terme méhadrine? Méhadrine achara mitzvot. Exactement à l'image de Léa qui a été méhadéret, qui est partie chercher, qui a manifesté ce désir ardent de composer la majorité des shvatim du Ham Israël. Et donc, on comprend déjà le début du Midrash. Donc, on est parti à la base au début d'un Midrash qui dit Adudaim natnu reach. Donc, les Doudaim que Léa a donné à Rachel ont émis une odeur. Donc les Doudaïm, ils ont émis quoi? Ils ont émis Issachar. Mais cette particularité de Issachar s'est retrouvée chez la Hashmonaïm. Et elle a donné quoi? Val Petachen ou Kol Megadim. Sur nos portes d'entrée, il y avait toutes sortes de délices. Et là, le Midrash dit, c'est Hanouka, Zene Hanouka. Ça, j'ai pensé à ça. En même temps, quand j'ai lu ça, j'ai pensé... Arrêt, il y a deux hommes pour ça, que Shalosh Regalim, Keneged, Gimel Avot. D'accord? C'est Pessah par rapport à Abraham, Shavuot par rapport à Yitzhak, Sukkot par rapport à Yaakov. Et on a deux fêtes qui sont Midivre Sofrim, qui sont Midera Banan. Et comme ça, c'est marqué Shema Beni Moussar Avicha, Vatitosh Torat Imecha. Moussar Avicha, c'est la Torah chez Birtav, et Torat Imecha, c'est Torah chez Béalpé. Torah chez Béalpé, donc des Rabanan. Donc il y a deux fêtes des Rabbanan dans le calendrier juif, il y a Hanouka et Pourim. Or Pourim, ça s'est passé avec Esther Esther, c'est la descendante de Binyamin, donc elle représente, elle est la représentante de Rachel, entre guillemets, et Hanouka, donc ça vient des Hashmonaïm qui ont en fait qui ont réussi à manifester la qualité de Issachar, qui lui vient de Léa, en manifestant ce hidour là d'aller rechercher. Donc on peut qualifier la fête de Hanouka étant liée à Léa. Comme ça, donc on a ces deux fêtes, hein. Yehudit, elle était de Lévi, elle était de Hashmonaïm, la famille de Hashmonaïm. Donc Cohen.
De Léa aussi.
Aussi. Exactement. Alors maintenant, après, il explique un peu. Donc déjà, le Midrash, il sonne très bien. D'accord ? Adoudaïm, Natnou Reach, Valpetachenu Kol Megadim. Maintenant, il essaie d'expliquer. Bon, c'est quoi Valpetachenu Kol Megadim ? Comment le Midrash qualifie Hanouka ? On parle de Megadim. Or, Mine Megadim, généralement, c'est des confiseries, c'est des délices. Alors, il dit, pourquoi ? C'est quoi ce terme de Megadim ? Pourquoi le Passouk, le Midrash, verrait dans ce Passouk qui parle de Megadim le Ner Hanouka ? Alors, il ramène quelque chose de très joli aussi, au nom du Taz. Le Taz, dans Ilchot Hanouka, Siman Tafresh Aïn, Seif Katan Gimel, ramène là-bas la question du Levush. Il dit, c'est bizarre quand même. On a deux fêtes des Rabbanan. Bon, alors, on ne parle pas des fêtes de Raïta, dans lesquelles c'est marqué Vesamarta Bechayecha, Ve'en Simcha El Abe Bassar Ve'yayin, on doit manger de la viande et boire du vin, etc. Ok. Maintenant, dans les fêtes des Rabbanan, il y a Purim et Hanouka. À Purim, c'est la Sot Otam, Yeme, Mishte, Ve'simcha. Donc, il faut faire le Mishte, il faut se donner à manger, il faut faire un festin. Il dit, comment ça se fait qu'à aucun moment n'apparaît ce devoir de faire des Seudot à Hanouka? Peut-être pas tous les jours, mais au moins marquer le coup avec un michté. Pourquoi il n'y a pas de notion de michté à Hanouka comme elle existe à Purim ? C'est la question que le Levush pose et qui est ramenée donc dans le tour. Et le Levush répond lui-même donc à sa question en disant que à Purim, ce que Haman a menacé, c'était physiquement. Les Juifs ont été menacés physiquement. Et donc il était normal que lorsqu'on a été sauvé, on va exprimer ça par notre partie physique, en faisant un michté. Alors qu'à Hanouka, ce n'est pas, la menace n'était pas physique, mais beaucoup plus spirituelle. Donc ce sont les Neshamot qui ont été menacés. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas lieu de faire de michté à Hanouka. Alors à partir de là, le Taz, donc il ramène ce Levush, il pose une question. Il dit, mais arrête, on connaît tous cette Gemara. Une Gemara très connue qui dit, Gadol Amartio Yoter Minaorgo. Chachamim ont toujours vu plus gravement une personne qui fait fauter l'autre qu'une personne qui tue l'autre. Faire fauter l'autre, c'est quelque part amoindrir, diminuer sa neshama. Il dit Gadol Amartio Yoter Minaorgo. Alors, d'après ça, il dit on devrait, puisque c'est plus grave de faire fauter que de tuer, ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave de tuer. Mais c'est encore plus grave de faire faute. Il y a cette dimension-là. Alors on aurait dû quand même faire un michté à Hanouka. Il demande sur le Levush. Alors là, le Rav Shor, il explique quelque chose de très, très, très fort. Il dit... Voilà. Il a une façon de le dire aussi. Yesh lomar beze nekuda be'etzem ha'metziut shel yom tov Hanouka ma'u avodato. Ça va nous amener au message principal de... Au message de Hanouka. Il dit... Il est clair... qu'aujourd'hui, la vie physique, à notre grand désarroi, très relatif à chacun, représente le principal de la vie pour l'homme. D'accord ? C'est, on va dire, on se soucie beaucoup plus de notre vie matérielle, terrestre, que de nos capacités spirituelles. D'accord ? C'est peut-être le moment, en même temps, de mentionner ce géant de la génération, ce Gadol Hador qu'on a perdu aujourd'hui, en la personne du Rav Steinman, qui, lui, on pouvait voir de ses yeux combien il ne s'était pas pris à ce piège-là. Rav Ariel a pris la parole juste avant ce shiur, il a raconté certaines anecdotes sur le Rav Steinman, simplement extraordinaires. Il raconte que quand il avait 11 ans, il était dans une yeshiva là-bas, en Europe de l'Est, et que c'était, donc, à 11 ans, c'était le plus jeune de la yeshiva d'ailleurs, et ça dérangeait les autres élèves qui étaient dans un âge plus normal. Et qu'à un moment donné, pour se moquer de lui, ils avaient posé une poupée sur son lit. Et en fait, ce qu'ils voulaient, pourquoi ils l'ont embêté de cette façon-là? Parce qu'ils n'arrivaient pas à capter le moment où il allait dormir. C'est-à-dire, ils ne les voyaient jamais aller dormir. Quand eux dormaient, en Canary, lui venait, il se levait avant eux. Et on raconte, si Rav Aryeh le raconte, c'est qu'il a des sources sûres sur le sujet, et dit qu'à 11 ans, donc même pas, c'était Yeshiva Ktana, il dormait 3 heures par nuit. À 11 ans, il dormait 3 heures par nuit. Et que dernièrement, Rav Aryeh racontait que il y a une. Il avait un CDR, on n'imagine même pas. Qui était. Voilà, à 3 heures, je crois. À 3 heures, il commençait sa journée de Limoud. Après, recevoir les gens, après les visites dans les yeshivas, donc enfin, cette simplicité hors du commun. Et il ramène que dernièrement, il y a 3-4 ans peut-être, il y a un proche à lui qui est venu le voir, Motzei Shabbat. Motzei Shabbat en hiver, vers 18h comme ça. Et un proche, on va dire qu'à ses entrées là-bas. Et quand il est arrivé, on lui a dit, désolé, le Rav il dort. N'importe quoi. Ah, c'est bon, le Rav il dort pas à 18h. Jamais il a fait ça de sa vie. Et on lui a expliqué, on lui a dit que le Rav Shteman avait pris sur lui, il y avait quelques temps, donc dans les dernières années, le Rav Shteman avait dit comme ça, il avait dit, je sais qu'il ne me reste pas énormément de Shabbatot à passer sur Terre. Alors les derniers Shabbats, je veux les vivre pleinement, et il s'était interdit de fermer l'œil tout Shabbat. Donc entre tes petites séoudot ridicules et son limoud, et donc, bien sûr, il avait plus que 100 ans, à Motzei Shabbat. Non, mais pendant toutes les dernières années. Arrivé Motzei Shabbat, il s'écroulait. Et donc, à 18h, bien entendu, il dormait. Combien de temps? Je ne sais pas, j'imagine pas grand-chose. Et il avait donc cette capacité de pas vouloir profiter de ça, de pas se prendre au jeu de ce monde. Il est d'une simplicité limite illégale. C'est-à-dire, il est parti très loin dans sa Anava. On raconte, ça aussi ça m'a frappé ce qu'il a raconté, Rav Aryeh. On raconte que quand. C'est chez lui.
Oui.
Ouais. C'est bon. C'est juste délabré, sale, petit. Non, mais il y avait un tabouret sur son lit derrière
pour s'adosser.
Et non, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il a raconté que ça, c'est Raphaël Kanevski qui a raconté cette histoire. Que le Rav Shteman donc, avait été très considéré par le Chazon Ish, Zichrono Tzadik Livracha. Alors maintenant, il faut savoir que le Chazon Ish est Niftar en 53. D'accord ? Et donc en 53, faites le compte quel âge Rav Shteman il va avoir. Avant 53. Pour que le Chazon Ish ait eu le temps de manifester l'admiration qu'il avait pour ce jeune Avrech par rapport à lui, qui était à l'époque. D'accord ? Et que le Chazon Ish. Hein, voilà, autour de ça. Et c'est le Chazon Ish lui-même qui l'avait envoyé être Rosh Yeshiva dans différentes yeshivot, à Petar Tikva, Kfar Saba. Il recommandait énormément le Rav Shteman. Le Rav Shteman n'est pas arrivé sur la scène comme ça par hasard. Il y a eu Chazon Ish, il y a eu Rav Shach après aussi, qui envoyait énormément de gens demander à Rav Shteman. Et il raconte que lorsque Rav Shteman il venait voir le Chazon Ish se levait devant lui. Et quand il partait, il le raccompagnait. Et que suite à ça, quand il a fait ça quelques fois, que Rav Shteman il a remarqué qu'il avait le droit à un traitement de faveur, il n'est plus jamais allé. D'accord, on a eu le temps de remarquer ça avant 53, donc avant 50 ans, vous imaginez. D'accord, ce que nous on a de lui, c'est encore beaucoup plus grand. Bon, alors voilà, quand on dit ça, on peut pas ne pas penser à lui. C'est qu'il a, il a élaboré des plans dans sa vie pour ne jamais perdre de vue qu'il n'était qu'une échama, tout simplement, et qu'il ne s'est pas pris au jeu de ce monde. Il racontait justement, il avait pris des cabalotes sur lui de ne pas s'adosser S'il n'a rien de confort et qu'il a dû voyager à New York, et comme ça, c'est un proche, son secrétaire, parce que celui qui l'accompagnait, il a fait un vol Tel Aviv-New York, il ne s'est pas adossé sur le dossier du siège, à plus de 90 ans. C'est, bon, c'est des trucs hors normes. Et donc, lui avait, bon, peut-être, voilà, cette qualité exceptionnelle de ne pas prendre plus au sérieux son corps que sa neshama. Peut-être au contraire, même ses repas, genre le matin, il avait une bouillie comme ça de daïssa, de semoule, en une petite mesure. Après le reste de la journée, c'était une date par-ci, quelques noix, qui vérifiait bien sûr, ça, d'un ami qui a voyagé avec lui lorsqu'il était venu avec le Admour de Gour. Il était assis juste derrière Afteman, et il a vu pendant le vol que Afteman, bon, c'était arrivé l'heure du repas. Lors du repas, lui, il va pas mettre un torchon entre les coups. Il a sorti d'un petit tupperware deux dates et qu'il a vérifié au hublot pendant de longues minutes. Et il a mangé, il a fini son repas. C'est ça son repas. Quand il était venu avec le Admour de Gour, il avait déjà 95, 96, quelque chose comme ça. Azbekitsu, il dit comme ça le Rav Shor, il dit. Arrête, nous, on est très loin de ça, la preuve. Il dit, si par exemple, quelqu'un, pour X raison, il doit avoir une arme à la maison. Alors, on aurait tendance à être très réfractaire, naturellement réfractaire, à faire entrer cette arme à la maison, de peur qu'un incident domestique arrive. Alors, on va lui dire, mais de quoi t'as peur? D'abord, jamais il va le toucher, il va avoir peur. En plus, même s'il le touche, tu mets le cran de sécurité. D'accord? Et bon, et tu vides le chargeur. Avec toutes les précautions que tu peux me dire, il y a des gens, non, je ne veux pas prendre de risque. Je disais, il y a des accidents qui sont déjà arrivés, et il a enlevé le cran de sécurité, et j'ai oublié d'enlever les balles. Et il y a des accidents qui sont arrivés, moi je ne prends pas le risque. Donc il y a des gens, tout le monde comprend ces personnes-là qui prendraient des précautions afin que ce genre d'accident domestique n'arrive jamais chez eux. Donc au niveau de leur corps, au niveau de la vie physique, des accidents qui concernent la vie physique. Il dit, qu'en est-il au niveau des éléments qui peuvent représenter un danger au niveau de la neshama? Non, mais non, lui, il ne sera pas touché de ça, mais il va savoir faire le tri, et il prendra la mauvaise information, il la jettera. Et de toute façon, je vais lui redonner encore plus de spiritualité derrière, ça va effacer. On n'est même pas soucieux de tous les dégâts spirituels qu'on pourrait rentrer dans notre maison. Il dit justement... C'est ça, la notion même de Hanouka, quand on parlait justement par rapport à la kouchia du Levouche, il dit que Hanouka, c'est les Neshamot qui ont été menacés. C'est-à-dire quoi? C'est quoi ce ignan d'allumer et de rester une demi-heure passif, à rien faire? On est avec les enfants, on est assis, on reste devant les bougies de Hanouka. Il dit, c'est mommage. L'idée, elle est la suivante. C'est de se donner les moyens de prendre conscience qu'on n'est pas assez vigilant par rapport à tous les éléments spirituels qui pourrait porter atteinte à notre neshama. Donc c'est en fait le manque de valorisation des éléments spirituels. Et justement, les 8 jours sont nécessaires pour s'arrêter et essayer de se donner le moyen de comprendre le délice et l'importance cruciale qui se cache derrière les principes qui touchent ma neshama. Et à travers ça, on peut comprendre cette Gemara qui dit « Gadol amartio yoter minargo ». Justement, il dit « Hanouka s'est donné pour ça », pour comprendre ce genre de phrase. Gadol amartio yoter minargo. Et il dit, d'après ça, c'est un peu, c'est ça, mégadim. Donc on reprend le pasouk du Shir HaShirim, toujours la base. Adudaim not nourriar, ça on a compris. Ve'al petachenu, donc sur le pétach, kol mégadim. Le mot mégadim, ça vient comme dans la paracha là-bas, à la fin de la Torah, dans Vezot Abracha, mi meged shamaim. Allez voir là-bas la traduction, des délices du ciel. Mégadim, c'est ça, les délices du ciel. Et donc, c'est ça, le pétach et nous, kol mégadim. Le but de cette mitzvah qu'on met sur le pétach, c'est de prendre conscience quels sont nos vrais délices. Quels sont ces éléments qui sont censés nous importer beaucoup plus que les éléments matériels et physiques. Donc, d'après ça, on a une idée un peu plus complète et brillante de ce midrash qui fait référence à Hanouka. Et il a une autre idée qui développe ici aussi le Rav Shor sur le même midrash qui dit comme ça: Hadoudaim nat nouriach. On a le temps, ouais, 3 minutes, ça va. Hadoudaim nat nouriach. Les doudaim, quand on vous dit doudaim, à qui vous pensez? Réhouven. Voyelech Réhouven, bimek etzechetim. Emtsa Doudaïm Basadeh, c'est Réhouven. Alors on dit comme ça. Adoudaïm Natnouréach. Adoudaïm, c'est Réhouven. Ça appelle à se rappeler de Réhouven. Réhouven, Natan Réach. Il a émis quelque chose qui a donné une odeur. Velpetachenu kol megadim. Ça, c'est Chanukah. Quel rapport? Alors, dans le Midrash, dans le Khatam Sofer, il ramène un Midrash dans lequel c'est marqué les Doudaïm. Pourquoi ça fait référence à Réhouven? De Kae al Réhouven chez Itzil et Yosef. Ce Réhouven, qui a sauvé Yosef? On l'a vu dans la parasha la semaine dernière. Vas-y, Réhouven, il a sauvé Yosef. En fin de compte, il n'a pas sauvé Yosef. C'est vrai que la Torah dit, il va y avoir Réhouven, il va y avoir Tzilé ou Miyadam. Et quel rapport avec Hanouka? Il explique ça de façon ainsi très jolie. Il y a donc, pour ça, c'est marqué dans le Siman Tafre Shein Gimel. Kavta en Zakukla. C'est pris de la Gemara dans Shabbat. Arayun Alakha, si moi j'ai allumé convenablement les lumières de Hanouka et que ça s'est éteint, en Zakukla. Je n'ai pas un devoir de rallumer. Mitzat Sheni, si j'ai mis dans ma Hanouka une mesure d'huile suffisamment pour un quart d'heure, je ne suis pas Yossé de la Mitzvah. Il faut mettre de quoi allumer une demi-heure. Nous, alors si j'ai mis, maintenant donc ça veut dire, après ces deux à la route, qu'est-ce qui sort? C'est-à-dire il faut que je mette suffisamment pour une demi-heure, mais si ça s'est éteint, alors je ne dois pas le rallumer. Même si au bout du compte, ça a resté allumé que 10 minutes. Mais moi, ma mitzvah, c'était de mettre une demi-heure. Après, combien ça s'est allumé, ça c'est pas mon problème. Qu'est-ce que ça contient, cette halakha, au niveau moussav? Il ramène son nom du Rav Zev Wolf, Mistrikov. Là-bas, il disait, le message est clair. C'est à l'homme de faire ce qui est son potentiel, sa possibilité. À moi de faire les choses complètement. Après maintenant, il n'y a pas eu le résultat escompté. Ça, c'est pas mon problème. Il dit, c'est exactement ce que la Gemara dit dans Avodah Zarah. Le'olam yassim adam et atzmo ke'ol le'shor. Un homme doit se considérer toujours comme un shor avec un ol dessus. Mapshat, par rapport à quel domaine? Parce que on n'a jamais vu un shor avec un hol sur lui, avec un joug, qui fait un sillon dans un champ, et quand il se retourne pour voir le sillon s'il est bien fait. On n'a jamais vu ça. Lui, son travail, il marche, il avance. Après, est-ce que ça a été fait, ça n'a pas été fait, c'était mou, c'était dur? Pas son problème. Lui, il a tracé sa route. Le holam, yassi, madame et tatsmo, qui hol les shor. On comprend pourquoi les Yivanim, ils ont demandé, qu'êtes-vous lachem al keren ashor? C'est cette dimension. Arrêtez-vous les juifs, vous êtes tellement philosophiques, vous êtes tellement réfléchis. Vous remettez tellement. Mais réfléchis, regardez derrière vous, où vous allez, il faut voir les résultats. Qu'êtes-vous lachem al keren ashor? Ils ont voulu toucher cette capacité qu'on a d'avancer dans la vie sans jamais se poser de questions, cette détermination. Il y a fait... D'après ça, on comprend. Adoudaïm natnouréa, extraordinaire. Comment la Torah qui est précise dans son langage, comme on l'a dit, lorsque Réhouven il a vu ses frères vouloir tuer Yosef, va y avoir Réhouven, va y atzileu meyadam. Mais va y atzileu. Oui, parce que dans la pensée, il s'est dit, bon, ils vont pas le tuer maintenant, après je vais revenir, je vais le récupérer. En fin de compte, quand il est venu, il n'a pas pu le récupérer, d'accord? Mais la Torah considère que son intervention égale atzala. Il a sauvé Yosef. Et la Torah a peu peur de va y atzileu meyadam. C'est-à-dire que la Torah a mis complètement de côté le résultat. Elle a vu son intervention. Vas-y, moi je trace ma route, j'avance, je fais ce que j'ai à faire. Après, ça c'est à Kadosh Baruch Hu. Et il ramène à la fin, il dit c'est un grand moussard aujourd'hui, aussi bien pour les Bachoïs, je sais pas, que les Balé Batim. Enfin, les Balé Batim, ils font mes sirout nefesh. Une heure de limou, il dit mais qu'est-ce que je me souviens? Mais je me rappelle pas. Il trace ta route. Toi, tu as fait ce que tu pouvais, tu t'es arrêté, tu as étudié, tu t'es donné le moyen d'être Koveitim la Torah. Tu te rappelles pas. Mais ça, c'est le moussard qu'on doit garder de Hanouka, c'est justement avancer sans regarder pour autant les taux de sa haute qu'on a laissé derrière.
On va porter ça aussi aux enfants.